Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, le gouvernement est-il en train de défendre une loi liberticide? Hurlement à gauche et malaise dans la majorité à propos de la loi anti-casseurs. Très contestée, l'interdiction administrative de manifester. Détail avec Corinne Audouin et la députée En Marche du Bas-Rhin Martine Vonneur est notre invitée. La rencontre avec Carlos Ghosn. Yann Rousseau, premier journaliste européen, a parlé à l'ex-PDG de Renault, nous raconte le sentiment d'injustice, le refus de répondre aux questions délicates et la combativité du prisonnier en polaire et jogging sombre. Nous allons à Tokyo tout à l'heure. Riyad Satouf, président. Première fois qu'un auteur de BD préside le Livre Inter. C'est le moment d'envoyer vos lettres pour être membre du jury. Le président vous attend, il vous aime déjà.
J'adore les lecteurs déjà à la base. Parce que pendant des années, j'en ai pas eu. Venez, on va lire plein de livres et on va certainement beaucoup rigoler.
Et on l'entendra plus longuement tout à l'heure, Riyad Satouf. Dans ce journal encore, les fast-foods en France. Plus de 240 000 tonnes de déchets alimentaires ou d'emballages. Bonjour Adrien Toffolet.
Bonjour.
Et tout cela joyeusement mélangé dans les poubelles.
Oui, les grandes enseignes, McDo, KFC, Subway, ne jouent pas le jeu du tri sélectif alors que c'est inscrit dans la loi. La secrétaire d'État à l'écologie, Brune Poirson, l'aura rappelé ce matin lors d'une réunion au ministère. Au menu, un plan de mise en conformité des restaurants à présenter d'ici le mois d'avril et en guise de sauce piquante, la menace de sanctions pénales.
Vous êtes retraité, vous avez un problème avec l'impôt à la source qui vous semble trop important, c'est normal. Laurent Kramer vous explique. Élève de terminale S cherche prof de physique depuis plus d'un mois, gênant à l'approche du bac. La colère monte dans un lycée de Savoie. Le temps, en vous précisant d'abord que l'autoroute A31 est rouverte après la galère en Moselle. Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Le temps, c'est de la pluie et de la neige aussi.
Et oui, alors toujours prudence, hein, sur les routes, les sols sont souvent glissants. La pluie, elle gagne par l'ouest et le sud avec du vent. Elle va se transformer en neige en arrivant vers le nord. 8 départements sont en vigilance orange, de la Haute-Normandie et des Yvelines vers le Val-d'Oise et une grande partie des Hauts-de-France. Et puis attention sur les Pyrénées, cet après-midi, le risque d'avalanche reste très fort sur l'ouest.
On vous retrouve dans une petite demi-heure, Élodie. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. C'est une proposition de loi venue de la droite que le gouvernement s'est appropriée et qui ne passe pas auprès de la gauche et même d'une partie des députés En Marche. Proposition de loi anti-casseurs. Coup de sang à l'Assemblée ces dernières heures du centriste, pas vraiment un gauchiste chevelu, Charles de Courson.
On se croit revenu sous le régime de Vichy. Oui, je dis bien le régime de Vichy. Par votre attitude, vous êtes présumé être résistant, donc on vous entôle. Voilà, par l'autorité administrative. Mais réveillez-vous, mes chers collègues, parce que le jour où vous aurez une droite extrême au pouvoir, vous verrez, mes chers collègues, c'est une pure folie que de voter ce texte. Une pure folie.
Alors, diable, que contient ce texte pour susciter de telles polémiques? Bonjour Martine Vonneur.
Bonjour.
Députée En Marche du Bas-Rhin, vous faites partie des députés qui ne cachent pas un certain malaise à propos de ce texte. Je vous interroge là-dessus dans une seconde. D'abord, avec Corinne Audouin, rappel de ce que contient le texte. Donc, proposition de loi, Corinne, ressortie des cartons après les week-ends les plus violents de la crise des Gilets jaunes. C'est la droite qui avait promu le texte au Sénat l'année dernière. C'était contre les Black Blocs après les manifs du mois de mai. Le vote solennel, c'est lundi à l'Assemblée. Pour l'instant, il est examiné article par article. Adopter, Corinne, un délit de dissimulation de visage.
Oui, la nouveauté, c'est que la dissimulation volontaire, totale ou partielle du visage dans une manifestation deviendrait un délit puni d'un maximum d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Jusqu'ici, c'était une infraction passible d'une amende de 1 500 euros. Dans les faits, très peu d'amendes ont été infligées pour ces faits. En faire un délit aurait un effet dissuasif, espèrent les députés.
Alors, adopter, et c'est le plus polémique, des interdictions administratives de manifester.
Oui, c'est l'article 2 qui s'inspire des mesures anti-hooligans avec les interdits de stade. Les préfets pourront décider d'interdire à des personnes de manifester si leur comportement présente une menace à l'ordre public. Et pour évaluer cette menace autrement qu'au doigt mouillé, eh bien le texte prévoit que cette interdiction s'appliquera à des personnes qui ont déjà commis des actes répréhensibles dans une manifestation violente. Alors la formulation là aussi est assez vague. On ne sait pas par exemple si le fait d'avoir lancé un pavé pourra constituer un motif légitime d'interdiction de manifester 10 ans ou 20 ans plus tard. Autre possibilité prévue par le texte, le préfet pourra prononcer une interdiction de manifester sur tout le territoire pour une durée maximum d'un mois. Et pour que ça marche, eh bien la personne pourra être convoquée pour pointer pendant la manifestation.
Martine Vonneur, députée du Bas-Rhin, vous êtes toujours avec nous. Qu'est-ce qui vous choque dans ce texte ?
Mais ce texte, alors sans aller jusqu'aux propos un peu provocateurs de mon collègue Charles de Courson, ce qui me choque réellement, c'est qu'on n'est plus dans une séparation des trois pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Donc moi, je comprends bien en fait le questionnement et les attentes de nos concitoyens là de ces, de ces passages à l'acte répétés tous les week-ends. Et j'en profite aussi pour rendre hommage vraiment aux forces de l'ordre qui sont depuis tellement de semaines sur le terrain, mais en tant que parlementaire, je dois vraiment être attentive au-delà des débats à ce qu'on peut, voter comme texte. Et là, je rappellerai que notre état de droit et toute sa force vraiment réside dans la capacité à protéger de même tous les citoyens, mais surtout en préservant toutes les libertés individuelles.
Ça signifie que vous êtes prête à ne pas le voter, ce texte ?
Alors j'ai en effet voté contre cet article 2 parce que je ne peux pas concevoir en effet donner autant de pouvoir au côté, administratif. Et sans voter contre le texte, mon abstention pourra montrer à quel point je suis en difficulté avec ce texte. Porté par ma majorité, oui.
On est à un point vraiment de crispation très élevé au sein du groupe, c'est le sentiment qu'on a.
On a déjà eu ce type de crispation il y a un an au moment de tous les débats de la loi asile, immigration, intégration. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse mettre intelligemment un gradient dans les crispations. On est de nouveau à un moment, là nous étions plus d'une quinzaine hier soir de la majorité à voter contre cet article 2. Ceci étant, je continue à pouvoir porter et à pouvoir voter selon mes convictions les plus profondes. Et je n'ai pas reçu la moindre consigne de vote.
Vous pensez que le texte peut encore évoluer ? Alors d'abord d'ici à la semaine prochaine et le vote solennel, et ensuite le véhicule avec le Sénat ?
Alors, le texte avait déjà très fortement, évolué par le biais de toutes les discussions qu'il y a eu en commission des lois. Pour autant, s'il repart au Sénat et s'il est retravaillé encore de façon plus dure, je resterai de toute façon complètement sur ma position.
Merci Martine Venner d'avoir répondu aux questions de France Inter. Autre controverse peut-être à venir, un décret créant un fichier des mineurs isolés étrangers publié ce matin au Journal officiel. Les départements qui doivent prendre en charge les mineurs isolés attendaient ce coup de main de l'État depuis longtemps pour aider à l'évaluation de leur situation. Les associations craignent un outil de lutte contre l'immigration irrégulière. Nous allons à Tokyo à présent. Bonjour Yann Rousseau.
Bonjour.
Chef du bureau du journal Les Échos à Tokyo, on vous entend régulièrement sur Radio France, notamment dans ce journal de 13h, et c'est exceptionnel. Avec une consoeur de l'agence France Presse, vous êtes les premiers journalistes européens à avoir pu parler à Carlos Ghosn, le PDG déchu de Renault-Nissan, dans la prison de Tokyo où il est incarcéré. Dans quelles circonstances, racontez-nous plus précisément, dans quelles circonstances vous l'avez rencontré ?
Mais vous savez que ça fait plusieurs jours que les journalistes savent qu'il va pouvoir recevoir des gens, des proches. Il y a trois canaux pour lui parler. Je suis passé par un et j'ai eu la chance que ça marche. Et donc votre nom est déposé à l'accueil de la prison. Vous vous présentez à une heure dite, vous remplissez une petite fiche et on vous conduit, après quelques minutes d'attente, dans un parloir qui est au 10e étage de ce centre de détention de Kosuge. Là, vous entrez dans une petite salle d'à peu près 6 mètres carrés. Il y a une grande vitre qui part du plafond et qui descend jusqu'à un comptoir en inox. Et vous êtes assis, vous d'un côté, et lui avec deux gardiens de l'autre côté.
Et vous avez pu lui parler un quart d'heure à peu près, quelque chose comme ça ?
C'est exactement 15 minutes. L'échange est fait en anglais. Vous avez un gardien qui est là pour transcrire ce que vous dites. Et il y a un autre gardien qui a une montre et qui contrôle le temps. Et à 15 minutes pile, il se lève et c'est terminé. Carlos Ghosn s'en va.
Dans quel état physique l'avez-vous trouvé ?
Écoutez, il était, je crois, plus affaibli lors de l'audience publique qui avait eu lieu, vous vous en rappelez, au début du mois. Bien sûr, il a un peu maigri, mais il était en bonne forme, il était extrêmement réactif, extrêmement vif. Il avait une grosse polaire noire sur un t-shirt noir, un jogging sombre et effectivement des espèces de sandales en plastique d'un translucide un peu verte.
Il voulait parler. Que vous a-t-il dit en priorité ?
Alors, ce qui veut dire, c'est que ce qui lui arrive, c'est le fruit d'un complot. Il utilise les mêmes mots, complot, trahison piège. Il explique qu'il n'a pas vu venir ce qui lui arrivait et il pense que depuis des mois, des gens de Nissan s'opposaient en secret à son projet stratégique qui était une intégration des trois marques sous une même holding, sous une même maison mère. Alors, c'est pas le mot fusion qu'il emploie, mais c'est une intégration sous une maison mère des marques Renault, Nissan et Mitsubishi Motors. Et il dit qu'il y avait énormément de résistance au sein de Nissan qui était au courant de ses plans, puisqu'il dit qu'il en avait parlé avec Hiroto Sakawa et avec d'autres exécutifs du groupe. Et il dit que c'est pour ça qu'on a refermé ce piège sur lui et qu'on l'accuse de tous les maux de la terre.
Et il rejette en bloc les accusations.
Totalement. Il dit qu'il est innocent déjà des deux dossiers qui font partie de la démarche légale judiciaire. Vous savez qu'il faut distinguer ce que le procureur lui reproche, ce sont les rémunérations qu'il aurait cachées et le contrat de devise qu'il aurait fait garantir par Nissan. Ça, c'est ça l'accusation, c'est ça les mises en examen. Mais il y a tout le reste qui est des accusations qui viennent d'accusations de Nissan. Donc, c'est les maisons à Rio, la maison à Beyrouth, les salaires à sa sœur, les salaires qui touchaient des co-entreprises en Hollande. Ça, c'est une autre partie, ça fait pas partie du dossier judiciaire et il dément tout en bloc, même s'il ne va pas dans les détails. On n'a par exemple pas pu lui faire parler du salaire de sa sœur.
Est-ce qu'il a un espoir de sortir avant un éventuel procès, sachant que on sait qu'au Japon, quand il y a procès, dans quasiment tous les cas, il y a condamnation.
Alors, tous les cas ne vont pas au procès, mais tous les procès débouchent à 99,97% sur une condamnation. Donc, quand le procureur se saisit d'un dossier et met en examen, il y a très 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 peu de chances pour l'accusé de s'en sortir sans une peine. Et donc il dit qu'il veut sortir et qu'il va retenter d'obtenir une libération sous caution. Mais c'est vrai que ses chances sont très faibles puisqu'il n'avoue pas. Vous savez qu'au Japon, on a tendance à garder les suspects qui n'avouent pas le plus longtemps possible en détention provisoire pour les faire craquer moralement et leur dire écoutez, de toute façon vous allez être condamné, donc allez-y, signez en bas de la page. Et ce qui est très dur, il dit, c'est de pas voir sa famille. Vous savez, il a aucun contact avec son épouse Carole et ses enfants depuis le 19 novembre. Donc aucun contact, c'est pas de lettres, pas de mots, pas de téléphone, rien. Et il dit qu'il souffre de ça parce qu'il n'y a pas pu, par exemple, la semaine dernière, souhaiter un bon anniversaire à sa fille aînée. Il dit, mais vous imaginez, en 30 ans, ça m'est jamais arrivé. Donc ça, c'est marquant. Mais quand même, malgré ce qui lui tombe dessus, il avait encore cette aura, cette prestance, cette capacité à pas être abattu. À aucun moment, il était abattu. Et ça, c'était assez marquant.
Yann Rousseau, entretien enregistré en milieu de matinée à propos de cette rencontre avec Carlos Ghosn. On parlait hier de la croissance qui faiblit en France. Eh bien, elle faiblit dans toute l'Europe. Selon Eurostat, 1,8% l'année dernière de croissance contre 2,4% en 2017. On parle de la zone euro. Les fast-foods sont des cochonneries. Une partie d'entre vous dira sans doute que ce n'est pas nouveau. Mais là, on ne parle pas de l'alimentation, on parle des déchets. 1 milliard de repas servis chaque année en France et des déchets alimentaires forcément, et d'emballage. Mais le point sensible, c'est qu'il y a très peu de tri. Les patrons des chaînes de restauration rapide étaient reçus ce matin par la secrétaire d'État à l'écologie, Brune Poirson. Elle leur a fait des yeux gros comme des Big Mac, Adrien Toffolet.
Oui, il faut dire que les services du ministère ont effectué des contrôles en fin d'année dernière, contrôles inopinés, dans une cinquantaine de restaurants du territoire. McDo, KFC, Subway et autres fast-food dont raffolent vos enfants, Bruno. Et les résultats sont très décevants, c'est le moins qu'on puisse dire, constatait ce matin la secrétaire d'État à l'écologie, Brune Poirson.
Aucune salle de restauration n'était en conformité totale avec l'ensemble de la réglementation et de la législation. Par exemple, il n'y a même pas l'infrastructure qui est mise en place dans beaucoup de ces salles de restauration. Il n'y a même pas l'infrastructure qui pourrait permettre de trier des déchets.
Et pourtant, depuis juillet 2016 et la publication du décret 5 flux, les professionnels ont l'obligation de trier 5 types de déchets, papier, carton, métal, plastique, verre et bois. Difficile à mettre en place, se défend Dominique Benezet du Syndicat National de l'Alimentation et de la Restauration Rapide.
On peut pas changer les habitudes comme ça, d'un claquement de doigts, par un décret ou par un arrêté. Il faut que ça se mette en place au niveau des restaurants. On est tenu aussi par la configuration des différents restaurants. Certains ont davantage de place que d'autres, donc il faut tenir compte de ces particularités et il faut sensibiliser le personnel, il faut sensibiliser également le consommateur à qui on demande l'effort aussi de participer à cet effort de tri.
Et il va falloir mettre les bouchées doubles. Brune Poirson a fait les gros yeux. Elle a surtout rappelé les sanctions qui s'appliquent et auxquelles les fast-foods ont échappé jusque-là, jusqu'à 150 000 euros d'amende et 2 ans de prison. Les enseignes se sont engagées à remettre au ministère à la fin mars un plan de mise en conformité rapide. Mise en conformité qui sera suivie de près par les autorités.
Les trains et singulièrement les TGV arrivent de plus en plus souvent en retard. La SNCF le reconnaît. Elle publie même des chiffres ce matin à ce sujet. Pour la 4e année consécutive, le taux de régularité est en baisse. Les causes de cela, multiplication des chantiers, mais aussi des clients et des trains, ce qui limite les marges de manœuvre sur le réseau en cas de pépin. Ajoutez à cela l'épisode de neige l'hiver dernier, la grève du printemps, vous avez les principales explications. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Comment ça se passe ailleurs en Europe chaque jeudi dans ce journal de 13h? Est-ce que nous sommes plus mal lotis que nos voisins sur ce terrain?
Un petit peu. La SNCF est tout de même en queue de peloton en Europe. 87,9% des TGV sont à l'heure. Ce sont les TGV, les intercités, qui ont le plus de retard, en particulier aux heures de pointe. Chez nos voisins, si on prend les trains longue distance, eh bien les plus fiables, ce sont les Allemands et les Italiens, deux des réseaux ferroviaires pourtant les plus étendus d'Europe. Moins fiables cependant que les Autrichiens, les Néerlandais et les Danois. Et sur de plus petites distances, les trains baltes sont les plus ponctuels. Et oui, 99% de ponctualité pour les champions d'Europe, les Estoniens.
Allez, on va en Estonie. Cela dit, il y a des différences d'appréciation.
Oui, car en France, le TGV est considéré à l'heure si son retard ne dépasse pas les 5 minutes pour un trajet de moins d'une heure et demie. Pour un trajet de 3 heures, le train n'est considéré comme en retard qu'à partir de 15 minutes. C'est plutôt large, alors que les Hongrois sont en retard dès la première seconde. En Suisse, à partir de 3 minutes, et si les correspondances n'ont pas été assurées.
Suisse qui parviennent, tiens, à rendre ces retards très rares.
Oui, puisque 89% des voyageurs en Suisse arrivent à l'heure à bon port, près de 9 voyageurs sur 10. En France, sur 138 millions de passagers en 2017, eh bien, près de 31 millions sont arrivés en retard de 5 minutes.
Comment font-ils les Suisses pour être si ponctuels?
Eh ben, le matériel roulant est plus moderne, on ne le pousse pas à bout. La plupart des lignes ont des horaires cadencés tous les quarts d'heure, ce qui garantit une fréquence élevée et plus régulière. En France, les voies, le réseau ferré ont un problème de vétusté. Il y a souvent des travaux, ça ralentit aussi le temps de parcours. Ceci dit, la ponctualité suisse est toute relative si on la compare avec celle des trains japonais. Les champions du monde, Japan Rail, concèdent un retard moyen de 6 secondes, Bruno.
Bravo les Japonais. On imagine évidemment que les retards ont des conséquences. Hein.
Oui, d'abord le coût économique. 1,5 milliard d'euros par an de pertes en France. 11 700 000 minutes perdues pour les voyageurs en France en 2017. Et ça va de pair avec un mécontentement qui augmente dans l'Hexagone. Le dernier baromètre européen sur la question place la France en tête d'un hit parade. Le hit parade des clients insatisfaits de leurs conditions de voyage en train.
Alors comment satisfaire les clients? La SNCF présente une série de mesures, ou envisage une série de mesures. D'abord, ça semble évident, mais que les trains partent à l'heure, à la seconde près, petit 1, que les premiers trains de la journée partent à l'heure pour éviter l'effet domino. Il y a un travail, reconnaît la SNCF, à mener sur les flux de voyageurs en gare. Trop de monde à la gare au même moment, cela provoque des retards. Des chiens renifleurs et des SMS aux voyageurs contre les bagages abandonnés, ça évite l'intervention des démineurs. Et puis, une remise à plat de l'affectation des trains et des horaires région par région. Merci Delphine Simon. Votre chronique, on la retrouve sur franceinter.fr. Gérald Darmanin va-t-il rester au gouvernement? La question monte et en pleine crise des Gilets jaunes, après les départs de Nicolas Hulot et Gérard Collomb, son départ poserait problème. Les données, justement, du problème, il veut reprendre la mairie de Tourcoing, ça n'est pas nouveau. La question est plus pressante et plus sensible depuis le décès de Didier Drouard, dont il était proche et qui lui avait succédé à la mairie quand il est entré au gouvernement. Alors partir tout de suite? Être à la fois ministre et maire, contrairement aux règles, sinon écrites en tout cas tacites, le problème est vaste, décision imminente.
J'aurai l'occasion au début de semaine prochaine, avant le conseil municipal qui ira le maire, de donner ma décision. Chacun sait que je suis très attaché à ma commune de Tourcoing, à ses habitants, mais chacun sait aussi, et me semble-t-il, que d'être ministre, c'est une responsabilité particulière. Donc permettez-moi d'être dans le temps du deuil et j'aurai l'occasion, bien sûr, d'en faire part au président de la République et à vous-même.
Et le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, a cette phrase « Rien n'empêche aujourd'hui un ministre d'être maire dans la loi ». En tant que ministre des Comptes Publics, pour l'instant, Gérald Darmanin a un gros dossier à gérer. Les débuts du prélèvement à la source, ça se passe bien, jure-t-il. Il y a tout de même beaucoup de coups de fil aux impôts. Des appels de retraités en particulier, Laurent Kramer.
pour les retraités, les déconvenues viennent toujours de la même erreur de calcul. Le contribuable imagine qu'il doit prendre en compte son revenu net mensuel, sa pension nette qu'il touche chaque mois, pour y appliquer son taux de prélèvement personnalisé. Erreur quasi systématique de retraités qui oublient que l'impôt est bel et bien calculé sur le revenu net imposable, qui réintègre une partie non déductible de la CSG et modifie ainsi le calcul final, une information auquel ils n'ont pas forcément facilement accès auprès de leur caisse de retraite. Tout impôt calculé sur le revenu net mensuel est donc forcément erroné, explique ainsi l'administration fiscale à longueur de journée. Autre déconvenue, cette fois pour certains salariés qui viennent de toucher un important crédit d'impôt. Malgré cette avance de trésorerie, ils découvrent qu'ils devront débourser chaque mois, avec le prélèvement à la source, plus d'impôts que lorsqu'ils étaient mensualisés l'an dernier.
Lycée de Haute-Savoie recherche désespérément professeur à Passy, lycée du Mont-Blanc. Cela fait 5 semaines qu'une classe de terminale S n'a plus de prof de physique. Et il y a le bac. À la fin de l'année, coefficient 7 en physique pour les terminales S. Les parents d'élèves ont écrit au rectorat. Pour l'instant, aucun remplaçant n'a été nommé, Richard Vivion.
Déjà 30 heures de cours de physique perdues. Christine, dont le fils est dans cette classe de terminale scientifique du lycée du Mont-Blanc à Passy, ne cache plus sa colère.
Ah mais complètement, c'est incompréhensible. Il n'y a rien qui bouge. Comment faire pour passer un bac quand on n'a pas vu le programme?
Alors les 32 élèves essaient de s'organiser, ils ont récupéré des cours. Le lycée leur a mis à disposition une salle pour qu'ils travaillent leur physique, mais toujours pas de prof. Et pas de prof signifie également pas de notes. Et ça, lors de leur inscription sur Parcoursup pour la suite de leurs études, cela risque de les pénaliser, explique la mère de famille.
Parcoursup, pas de notes, peut-être la mention prof absent va être notée dessus, mais... voilà, ils risquent d'avoir leur bac, mais de ne pas être choisis après par les institutions qu'ils auront choisies pour poursuivre leurs études, parce que ça, ça va manquer. Imaginez quoi, des jeunes qui arrivent dans la vie comme ça, on leur barre la route, c'est incompréhensible.
Et selon les syndicats d'enseignants, Passy n'est pas un cas isolé. En Haute-Savoie, le manque de professeurs remplaçants est un problème récurrent. Beaucoup de vacataires, explique le SNES, préfèrent par exemple travailler en Suisse où les salaires sont plus élevés.
La mort de l'inventeur du permis à points, Georges Saar, proche de Jean-Pierre Chevènement et secrétaire d'État à l'époque de François de Mitterrand, vient de nous quitter. Il avait 83 ans.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Comment dire zut à Trump et envoyer un message de soutien aux Iraniens sans prendre trop de risques? Les Européens tentent une réponse. Rappel des épisodes dans ce dossier. 2015, accord sur le nucléaire iranien. Pas de fabrication de bombes en échange, commerce avec l'Iran. 2018, Trump n'y croit pas, il sort de l'accord et menace de sanctions toute entreprise qui commerce avec l'Iran. La force du dollar lui permet de faire la loi. 2019, aujourd'hui, l'Europe présente un mécanisme pour commercer avec l'Iran et contourner les sanctions américaines. Quentin Dickinson, c'est la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne qui portent ce mécanisme.
Oui, les sanctions américaines contre l'Iran se fondent sur une interdiction de créditer les banques et entreprises iraniennes de transferts financiers, qu'ils soient libellés en dollars ou en toute autre devise, au risque pour les contrevenants de se voir interdire toute activité économique aux États-Unis ou en relation avec des sociétés américaines. Le mécanisme que les Européens ont mis au point pour contourner cet obstacle, c'est celui d'une gestion centralisée du troc. En clair, si une entreprise européenne fournit des automobiles ou des machines-outils à une entreprise publique ou privée en Iran, ce pays s'acquittera de sa dette par la fourniture, pour un montant correspondant, d'un volume de pétrole, raffiné ou non. L'instance centrale, du côté européen, gérera les commandes et agira en chambre de compensation. De ce fait, il n'existera aucun flux financier entre Téhéran et l'UE. Évidemment, chacun ici est conscient qu'à tout moment, Donald Trump peut déclarer illégale cette procédure et qui provoquerait immédiatement une confrontation brutale avec l'Union européenne. De son éventuelle réaction directe ou indirecte, l'on pourra déduire le poids véritable qu'il accorde à l'UE et aux 3 membres de celle-ci qui ont le plus porté ce projet, France, Allemagne, Royaume-Uni.
Merci Quentin Dickinson. L'actualité internationale, c'est encore l'opposition vénézuélienne qui attend des actions plus fortes des Occidentaux, en particulier de la France. Après la première manifestation hier, les partisans de Juan Guaido préparent déjà la suivante. Samedi, ils appellent la population à descendre dans la rue une nouvelle fois. Le thème de la marche qui aura lieu à Caracas, c'est le soutien à l'ultimatum lancé par les Européens pour demander de nouvelles élections. Reportage sur place pour France Inter de Gilles Brière et Sacha Coleman.
Elle s'appelle Maria Corina. Elle a été destituée de son poste de députée pour avoir obtenu des fonds provenant des États-Unis. Depuis, elle n'a pas le droit de sortir du Venezuela ou encore de prendre l'avion, mais elle continue de parler et aime nommer les choses. La position française qui demande des élections anticipées peut mieux faire, explique-t-elle.
J'apprécie la position qu'Emmanuel Macron a prise, mais je pense que la situation est tellement critique et dangereusement alarmante. Nous avons obligatoirement besoin de positions plus fortes. C'est un État criminel, et comme tous les réseaux criminels, vous devez en tarir les finances. Et la France a les moyens de le faire et d'aller dans cette direction.
Maria Corina apprécie en revanche la ligne et les sanctions défendues par Donald Trump, le président américain, même si cela peut pénaliser les Vénézuéliens, car le vrai drame pour elle, c'est l'actuel président Nicolas Maduro.
La pire chose qui puisse arriver aux Vénézuéliens, c'est que ce régime reste en place. Il s'agit de mettre suffisamment de pression afin qu'à l'arrivée, cela coûte plus cher à Maduro de rester que de partir.
Et à ceux qui accusent l'opposition de vouloir renverser Maduro, Maria Corina retourne l'accusation en expliquant que c'est le président vénézuélien l'auteur du coup d'État.
Et ce matin, l'Union européenne exige la libération des journalistes arrêtés ces derniers jours, notamment nos confrères de l'émission Quotidien. C'est parti pour le 45e prix du livre Inter, premier jalon, la révélation du nom du président. C'est Riyad Satouf, l'auteur de la bande dessinée L'Arabe du futur, entre autres. Il est ravi, il vous attend, vous, lecteur.
J'adore les lecteurs, déjà à la base. Parce que pendant des années, j'en ai pas eu. J'ai rêvé d'en avoir et j'en suis un, en fait. J'ai une passion pour le livre. J'adore lire des livres. Je passe mon temps. J'ai une pile comme ça à côté de mon lit. Je fais des livres. C'est ce que je préfère dans la vie. Donc j'adore rencontrer des lecteurs. J'adore écouter la façon dont ils perçoivent les choses, dont ce qui les touche. C'est vrai que souvent, tous les ans, quand il y a les prix littéraires, je suis pas toujours d'accord avec les livres choisis. Et j'ai hâte, justement, de voir comment ça fonctionne dans leur tête. De rencontrer des gens passionnés, c'est toujours passionnant. Je me dis qu'on va voter, voilà. J'ai pas envie d'imposer quoi que ce soit, mais je me dis que voilà, l'avis commun sera certainement le bon. N'hésitez pas une seule seconde, venez. On va lire plein de livres et on va certainement beaucoup rigoler. Et peut-être un petit peu s'enguirlander, mais il ne faut pas hésiter à écrire. En tout cas, moi j'avais pas hésité, j'avais pas été pris.
Vous aviez été candidat?
J'avais été candidat. L'important est de participer.
Riyad Satouf avec Eva Bétan. Et oui, participez, soyez jurés, écrivez-nous. Pour cela, c'est le moment. Il y a deux manières de se porter candidat si vous voulez être aux côtés de Riyad Satouf. Sur internet, franceinter.fr, franceinter.fr ou par courrier. Livre Inter, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. Livre Inter, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. La météo dans une seconde vous dire avant que l'autoroute A31 est rouverte entre Metz et le Luxembourg. Quelques heures de galère ce matin après les quelques 20 cm de neige tombés entre minuit et 4 heures. Des camions s'étaient mis en portefeuille. Autoroute rouverte.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Élodie Calac.
Un temps perturbé cet après-midi avec du vent et de la pluie qui gagnent du terrain par l'ouest et le sud. À partir du milieu d'après-midi, la neige commence à se mêler à la pluie sur la Normandie, la région parisienne. Puis la neige prend le dessus sur la Haute-Normandie, sur l'ouest et le nord du bassin parisien, jusqu'au nord Pas-de-Calais. 8 départements sont d'ailleurs en vigilance orange. La neige gagne aussi le Grand Est ce soir et cette nuit. Il neige aussi en montagne cet après-midi. Attention, l'ouest des Pyrénées reste en vigilance orange pour le risque d'avalanche. Pas plus de 0 degré à attendu à Amiens cet après-midi, 2 à Reims, 3 à Paris et Nancy, mais 9 degrés à Lyon, 10 à Nantes et à Montpellier, 13 à Bordeaux, Bastia et 15 à Tarbes. Demain, ce sera plus doux mais encore perturbé.